Mayenne Luxembourg. Bonjour Luxembourg. Allô Luxembourg. Le rendez-vous hebdomadaire en grande région transfrontalière du collectif Moselle Aveyron sans frontières. Herzlich willkommen. Bienvenue à tous. Allô, bonjour, l'Aveyron, le Luxembourg et la grande région depuis Villefranche-de-Rouergue en Aveyron. Dans Moyenne Luxembourg, aujourd'hui, nous allons parler du grand Victor Hugo, et oui, et de son séjour au Luxembourg, où il s'est réfugié pendant l'année terrible de 1871 et après 20 ans d'exil. Considéré, bien sûr, vous le connaissez tous, comme l'un des plus grands écrivains de la langue française, infatigable écrivain, poète, romancier et dessinateur, on le sait moins, il a marqué son temps par son engagement intellectuel et politique. Vous connaissez tous hein, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Hernani, Ruy Blas et son célèbre recueil de poèmes Odes et Ballades de 1828, ainsi que ses célèbres carnets de voyage. Pour nous parler du grand Victor Hugo et de son itinéraire au Luxembourg, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone aujourd'hui Monsieur Yves De Smet, grand spécialiste de Victor Hugo au Luxembourg et vice-président de l'ASBL, entendez l'association sans but lucratif luxembourgeoise, les amis de la maison de Victor Hugo de Vianden. Moyenne Yves De Smet, bienvenue sur Moyenne Luxembourg. Vous êtes là?
Bonjour Véronique.
Tout va bien Yves?
Tout va très bien.
Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de Victor Hugo au Luxembourg. Vous nous appelez aujourd'hui, non pas de Vianden où se trouve le musée littéraire Victor Hugo, au cœur de l'Essling, mais vous nous appelez de Etelbruck, là où vous habitez, donc non loin de Vianden. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu, non seulement Vianden, mais aussi Etelbruck, au cœur du Grand-Duché de Luxembourg, au nord est du Grand-Duché de Luxembourg, à la frontière avec l'Allemagne?
Oui, alors géographiquement, on peut couper le Luxembourg en deux régions, celle du sud qu'on appelle le Gutland, ou bon pays,
oui,
et celle du nord qu'on appelle l'Essling, ou pays des montagnes.
Oui, ou Esslek, ou Ardennes luxembourgeoise.
Esslek en luxembourgeois, Esslek, oui.
Oui.
C'est un nom d'origine celtique. Oui. Et Etelbruck se trouve au milieu de la frontière est-ouest entre ces deux régions. Et Etelbruck se trouve à 25 km à peu près de Vianden, qui lui se trouve dans le Sling, sur la frontière avec l'Allemagne.
Oui, et donc Etelbruck, c'est donc la porte d'entrée vers l'Esslek, vers le Sling, vers les Ardennes luxembourgeoises.
La porte. Exactement.
Oui, et donc vous vous trouvez donc à la frontière allemande, donc non loin de Trèves, hein, à 50 km, je crois.
C'est ça, à peu près, oui.
Voilà. Donc je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, cher Yves De Smet, pour parler donc de Victor Hugo au Luxembourg. Alors que ce fameux musée littéraire Victor Hugo de Vianden, que je découvre, hein, je dois dire, vient de fêter en 2021 les 150 ans du dernier passage de Victor Hugo au Luxembourg, soit en 1871. Pouvez-vous un peu nous situer le contexte historique et culturel dans lequel Victor Hugo est arrivé au Luxembourg en 1871, non seulement au Luxembourg même et à Vianden, mais aussi en France? Que se passait-il à ce moment-là en France, même si on en a une petite idée, mais de votre point de vue de luxembourgeois?
Il faut rappeler qu'après la défaite de Napoléon III lors de la guerre franco-prussienne, Victor Hugo, qui était exilé ou qui s'était exilé, rentre donc triomphalement à Paris. Et la Deuxième République organise des élections. Victor Hugo est élu député. Comme Paris est assiégé par les Versaillais et les Prussiens, l'Assemblée se réunit à Bordeaux. À Bordeaux, son fils aîné décède, donc Victor Hugo rentre à Paris pour l'enterrer. Le jour de l'enterrement se déclare la Commune. Victor Hugo, ce même jour, doit se rendre à Bruxelles pour régler la succession de ses petits-enfants, puisqu'à l'époque, les mères et les épouses n'avaient aucun droit.
Oui.
Et donc, il se trouve à Bruxelles lorsque la Commune périclite et que la Semaine sanglante se termine. Les communards fuyant la France, Victor Hugo offre aux communards l'asile politique en son domicile bruxellois, ce qui a évidemment l'air de hérisser les autorités belges et qui donc expulse Victor Hugo. Victor Hugo, ne sachant trop où aller en France, il est considéré comme assassin et incendiaire à Guernesey, où il réside habituellement également. Donc il se réfugie au Luxembourg et plus particulièrement à Vianden parce qu'il y avait déjà séjourné en tant que touriste une dizaine d'années auparavant et il avait donc des connaissances qui pouvaient l'accueillir.
D'accord. Et quel était le contexte historique et culturel au Luxembourg en cette année 1871 ?
Oui, bon, à l'époque, le Luxembourg, c'est donc une propriété privée du roi des Pays-Bas, qu'il a reçu au cours du congrès de Vienne en 1815. Et donc le roi grand-duc, le roi des Pays-Bas grand-duc de Luxembourg, possède alors tout le grand-duché actuel, plus la province, la province belge de Luxembourg. Et donc à l'époque, le grand-duché était pratiquement le double de ce qu'il est aujourd'hui.
Ah oui. Oui, il faisait partie en partie aussi de la France, non ? C'était le département des forêts qu'on appelait ça, je crois ?
Oui, Napoléon l'avait annexé et l'avait transformé en département des forêts.
D'accord. Et quelle économie régnait à ce moment-là au Luxembourg et particulièrement dans le nord du Luxembourg ? Comment ça se présentait ? Dans quelles conditions Victor Hugo a-t-il été accueilli ?
Le Luxembourg à l'époque est très pauvre, en dehors de la frontière sud avec la France où se trouvent les mines de Minette à ciel ouvert. Le restant du pays est essentiellement agricole et il n'y a pas grand-chose à faire pousser, surtout dans le Sling où ce sont évidemment des montagnes plus qu'autre chose. Et donc il y a beaucoup de vagabonds et de mendiants. Et énormément de Luxembourgeois à l'époque s'exilent soit vers l'Amérique du Sud, soit vers la France pour trouver des petits boulots.
Et pourquoi
à peu près la moitié de la population luxembourgeoise se trouve à l'extérieur du Luxembourg pour pouvoir trouver du travail.
Ah oui, c'est exactement l'inverse d'aujourd'hui, en fait, ou 200...
Oui, aujourd'hui, c'est la moitié de la France qui est au Luxembourg.
Voilà. Et comment Victor Hugo a-t-il été accueilli, donc, alors, au Luxembourg, alors qu'il était déjà très, très mal vu à Bruxelles, et donc on l'a prié de gentiment ou pas de s'en aller. Et puis, alors, en France, n'en parlons pas, il était banni. Comment a-t-il été reçu au Luxembourg, justement ? Il y avait déjà des connaissances, j'imagine.
Oui, il était connu à Vianden même par le député maire, qui était son ami. Et puis aussi, il était connu comme personnage politique des plus encombrants, puisque d'une part, il avait émis des considérations quelque peu pas très agréables à propos du roi grand-duc, et d'autre part, il était peu aimé du milieu catholique suite à la publication des Misérables qui avait été mis à l'index pour anticléricalisme. Mmh. Et donc Victor Hugo était accueilli à bras ouverts par l'intelligentsia plutôt de gauche et était honni par l'intelligentsia plutôt de droite. Mais à Vianden, en dehors de Monsieur le Curé, la population était très ouvrière parce que c'est un pays de tanneurs. Et donc, il y avait pas mal de tanneurs. Et donc, là, il était accueilli à bras ouverts comme un proche du peuple.
Oui, alors vous nous avez proposé de nous faire découvrir ou redécouvrir Victor Hugo à travers un poème chanté de Victor Hugo par Georges Brassens. Il s'agit de la légende de la nonne, pardon. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cette légende de la nonne ou bien de Victor Hugo en rapport avec odes et ballades ?
En première lecture, c'est un petit poème très charmant qui se chante très bien. D'ailleurs, c'est bien rythmé par Georges Brassens.
Ah oui, c'est magnifique.
À la deuxième lecture et en filigrane, on voit bien Victor Hugo se moquer d'une part de la pureté des sentiments de certains, de la méchanceté des autres. Des difficultés à l'époque des relations amoureuses, si pas sexuelles, entre hommes et femmes. Et donc, c'est un poème à double sens.
Typiquement hugolien, comme vous disiez.
Voilà.
Donc, en fait, nous allons découvrir ce poème de Victor Hugo chanté par Georges Brassens et réduit en 9 strophes au lieu de 24. Donc, ça ne nous prendra que 3 minutes, mais vous allez voir, on en redemande à la fin, tellement c'est effectivement rythmé et tellement bien raconté par le grand aussi Georges Brassens. À tout de suite, Yves. Merci pour ce choix. À tout de suite, chers auditeurs.
Merci.
Musique, poème et chanson avec Georges Brassens et Victor Hugo.
Venez, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle de Donia Paria del Flor. Elle était d'allonge où s'entassent les collines et les halliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à Grenade. Il en est à Séville aussi, qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir de hardi cavalier. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla, car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ce qui pourchasse les filles sous les peupliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède, au grand soupir des gens du lieu. Comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères et la nonne est mal brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, au brigand par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent les amants par Satan liés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu qu'afin de préserver du vice les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
C'était La légende de la nonne, un poème de Victor Hugo mis en musique par l'incomparable Georges Brassens. Son élocution, sa diction et son rythme si remarquable. Nous retrouvons toujours dans Moyenne Luxembourg Monsieur Yves de Smet, qui est vice-président de l'association de la SBL luxembourgeoise Les Amis de la Maison de Victor Hugo de Vianden, donc un musée littéraire Victor Hugo consacré entièrement à Victor Hugo, car voyez-vous, Victor Hugo a séjourné quelques mois, non seulement à Vianden, au Luxembourg, mais aussi dans le sud du Luxembourg, à Mondorf, je crois, et puis à Diekirch, me semble-t-il. Comment est venue cette idée de musée Victor Hugo à Vianden, au Luxembourg ? Comment il est né ?
Ben, comme un peu partout de par le monde, en 1902, quand on a fêté le centenaire de la naissance de Victor Hugo, on s'est rendu compte que l'homme était intéressant à plus d'un titre, et entre autres pour les Luxembourgeois, était surtout intéressant d'un point de vue économique, puisque Victor Hugo, ayant séjourné dans différents endroits du Luxembourg, c'était très attractif pour le milieu hôtel, restaurant, café.
Oui.
Et donc, en 1935, quand la dernière propriétaire de la maison dans laquelle avait séjourné Victor Hugo a décidé de vendre, en particulier a voulu la racheter pour transformer cette maison en café qu'il voulait intituler Taverne Esmeralda.
Ah, en Taverne Esmeralda, d'accord, ça aurait fait des émules, voilà. C'est sûr.
Oui. Oui, ça aurait rapporté de l'argent en tout cas. Mais quelques édiles socioculturels ont mis évidemment le holà à ce crime de lèse-majesté.
Oui.
Et donc l'État luxembourgeois a racheté la maison comme patrimoine culturel.
D'accord.
Historique.
L'État, le gouvernement luxembourgeois, oui.
Mm-hmm. Oui. Et a donc chargé Madame Anne Beaufort, la première dame professeure de français en Luxembourg, d'en faire un musée. Et pour ce faire, 2 ans plus tard, elle a donc créé la SBL, les Amis de la Maison de Victor Hugo de Vierden, pour gérer ce musée, qui a finalement été inauguré en 1939, en grande pompe, avec un représentant de la France, qui a d'ailleurs offert au musée, à l'époque, un original de Rodin, le buste de Victor Hugo, d'Auguste Rodin.
Ah, magnifique, oui. Alors, que donne-t-il à voir ce musée Victor Hugo à Vianden, et que donne-t-il à comprendre de plus de Victor Hugo et de son itinéraire au Grand-Duché de Luxembourg ?
C'est un musée évidemment essentiellement orienté vers, non pas Victor Hugo en lui-même, mais Victor Hugo en Luxembourg. Mm-hmm. Et donc c'est très informatif, puisque peu de personnes savent où, quand, comment, pourquoi Victor Hugo a séjourné à plusieurs reprises.
Alors dites-nous.
Au Grand-Duché. Ben d'abord, à 4 reprises comme touriste en 1862, 63, 64 et 65, et puis comme exilé politique en 1871.
Oui.
Et donc c'est un musée qui offre énormément de données informatives sur les différents séjours, les différents endroits, les différentes personnes.
Et on découvre aussi un Victor Hugo dessinateur qu'on oui. méconnaît souvent, hein.
Il faut savoir que, alors que Victor Hugo n'a écrit sur toute son œuvre que 2 poèmes en relation avec le Grand-Duché, et
oui.
encore un et demi, par contre, presque un tiers de sa production en tant que dessinateur et aquarelliste est consacré à des châteaux forts, des ruines de châteaux forts luxembourgeois.
Et donc, et ces dessins sont exposés au musée Victor Hugo de Vianden.
Non, nous sommes juste propriétaires du dessin de Schengen, qui se trouve au musée d'art national à Luxembourgville. Pour le reste, nous avons quelques dessins, mais qui n'ont pas trop... La plupart de ces dessins sont à la maison Victor Hugo à Paris, évidemment, en place des Vosges.
Ok. Alors dites-nous
ces dessins, ils se trouvaient dans ses carnets de voyage, ils n'étaient
oui.
pas libres de...
Ces fameux carnets de voyage, oui.
Mm-hmm. Et donc, les carnets étant à... Place des Vosges, les dessins y sont aussi.
Mais qui donc fréquente le musée Victor Hugo à Vianden, mmh. sachant que Vianden est donc fait frontière avec l'Allemagne. Il y a Trèves à 50 km de Vianden. Nous sommes donc au cœur de la grande région, au cœur du Luxembourg, dans l'Eusling. Est-ce que vous recevez beaucoup de scolaires, des Français, des Allemands, des Luxembourgeois, des Asiatiques, pourquoi pas ? Parce que je crois que vous proposez une visite ou un audio guide, en tout cas en 9 langues. Donc ça laisse des possibilités.
Exactement. Oui, exactement. Alors, d'une part, vous avez évidemment les habituels voyages scolaires, surtout de classe terminale, qui ont Victor Hugo à leur programme.
Ah oui.
Et qui viennent donc visiter le musée. Mais d'autre part, d'un point de vue adulte, si je peux dire, la majorité de nos visiteurs sont curieusement des Asiatiques, qui viennent à Vianden parce que Victor Hugo est pour eux avant tout un socialo-communiste.
Oui.
Et donc ils passent d'abord par Trèves, voir la maison natale de Karl Marx, et puis montent sur Vianden pour voir la maison du grand maoïste.
Ah oui, effectivement. les Chinois ont effectivement offert une statue, je crois, de Karl Marx à la ville de Trèves, à sa ville natale, il y a quelques oui. années, quand on fêtait le bicentenaire, je crois. Ah oui, effectivement. Donc en fait, vous recevez vraiment beaucoup d'Asiatiques et de Chinois ?
Oui, c'est plus de la moitié de nos visiteurs, au point que l'ambassade, non, c'est pas l'ambassade, c'est une, la banque de Chine, nous a donc offert des audioguides en mandarin, en langue.
Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, eh bien, dites-nous, quand ce musée est-il visible? Je crois que ben, traditionnellement, pour Pâques, c'est la réouverture des portes du musée, quand il y a eu ou pas hein, quelques rénovations, quelques remises en place. Donc, pour, à partir de ce mois d'avril, je crois que vous êtes ouvert à partir du mercredi jusqu'au dimanche, non, de midi à 18h.
Oui, ça, c'est l'horaire de base. Bon, parfois, ça change un peu en fonction des manifestations locales ou de la disponibilité du personnel. Mais c'est, comme vous avez dit, de mercredi à dimanche.
Alors vous, en tant que guide du musée Victor Hugo, vous aimez à proposer une journée, un forfait, je veux dire, à Vianden, entre la visite du musée Victor Hugo et puis le château sur lequel il a écrit d'ailleurs, le château de Vianden.
Il a surtout fait des commentaires à l'époque, quand il est arrivé en 1862 la première fois, sur la rénovation qu'il a qualifiée de rénovation inepte à détruire. Le problème, c'est que le rénovateur était un ingénieur militaire de l'armée néerlandaise, du roi grand-duc. Donc les autorités l'ont très mal prise. D'un côté, on s'est offusqué de pareils commentaires, et d'un autre côté, on a quand même viré l'ingénieur néerlandais pour mettre un architecte luxembourgeois à la place qui a rénové convenablement, lui, la chapelle du château.
Oui,
donc,
et le château
part, de... Quelque part, la rénovation du château doit beaucoup à Victor Hugo.
Hugo. Oui, le château de Vianden est un site remarquable et incontournable. De toute façon, au Luxembourg, c'est grandiose. Il ne faut pas le manquer, comme il ne faut pas manquer le musée. Donc, à découvrir au préalable, si vous voulez, chers auditeurs, donc, sur Internet, www.victor-hugo.lu. Et puis, en visite avec M. Yves de Smet, pourquoi pas, en tant que guide du musée Victor Hugo et du château. C'est donc du mercredi au dimanche, 12h-18h. Je vous remercie Yves de Smet, vice-président de l'association des Amis de Victor Hugo de Vianden. J'espère à très bientôt à l'occasion d'un voyage peut-être avec des Aveyronnais au Luxembourg. Et je vous souhaite beaucoup de visiteurs en cette année 2022 au musée Victor Hugo et au château de Vianden. Merci beaucoup Yves, à très bientôt chers auditeurs. Tchuss, Eddy, au revoir, à bientôt, bis bald.
CFM. CFM Villefranche.